Oui, bonjour. Nous avons des avis. Il ne faut pas faire de bruit avec les micros. Clémentine Pons, de la Cave Poésie, accompagne Jean-Jacques Vanier, qui est comédien et qui en ce moment joue la contrebasse de Patrick Suskind. Et c'est mis en scène, évidemment, je n'ai pas pris mon papier.
Par Gilles Galliot.
Voilà, c'est joué toute la semaine à la Cave Poésie à 21h, donc il reste 3 soirs encore, c'est ça?
Oui, c'est ça, puisqu'on est jeudi, vendredi, samedi.
C'est ça, tout à fait.
3 fois, sauf si... On s'arrête avant.
Ah, si vous êtes d'accord.
Mais c'est pas prévu.
Il n'y a pas de raison.
Et donc.
Si on prolonge.
Ah, oui, mais après, vous devez aller à Avignon, puisque là, vous faites une halte à Toulouse, vous rodez un peu votre spectacle avant de partir à Avignon pour le festival, si j'ai bien suivi.
C'est en gros ça. J'aime pas tellement le mot rôder, mais bon, il n'y en a pas tellement d'autres. Ben, mais voilà, c'est la deuxième fois d'ailleurs que je viens faire la première du spectacle à la Cave Poésie. Ouais. La dernière fois, c'était en 19 avec Colère. Vous étiez venu,
oui.
J'étais venu.
Vous étiez venu ici aussi.
Vous
oui.
Faire cette émission de radio. Mm-hmm. Et mais ça me fait plaisir en fait d'avoir des habitudes, d'avoir des rituels, et donc de créer le spectacle. C'est pas seulement un rodage, c'est aussi la création du spectacle.
Oui, non, mais je dis parce que c'est le mot qui m'est.
C'est important. Enfin, nous, on a besoin de.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de comédiens, de compagnies qui font ça, qui le jouent d'abord dans différents endroits avant d'avoir le festival, quoi. Parce qu'il faut bien prendre ses
marques.
Oui,
le festival ou ailleurs. De toute façon, il faut bien commencer quelque part.
Oui, oui.
Même s'il n'y avait pas le festival derrière, il faudrait commencer quelque part.
Ah oui,
sinon, il n'y a pas de spectacle.
Où jouez-vous à Avignon?
Alors.
Non, mais.
Je joue à Avignon dans un théâtre qui s'appelle La CAF.
Non, ça, la, cave
la cave
Poésie
Bis.
La cave, c'est tout. C'est la chaleur qui
oui,
me perturbe.
Oui.
Pas juste
oui, je comprends.
L'émission de radio. La condition des soies.
D'accord.
Très belle salle où j'ai joué déjà l'année dernière d'autres spectacles.
D'accord.
Très très belle salle. C'est une ancienne fabrique de soie.
Ah, d'accord.
Qui s'est, avec le temps, transformée en théâtre.
Oh, c'est bien. C'est dans le.
C'est dans les murs.
Dans le vieil Avignon, je veux dire. Enfin,
dans le vieil Avignon, dans les murs, dans la cité.
D'accord. Ok. Et vous jouez durant tout le festival?
Tout le festival, c'est-à-dire du 7 juillet au 31 juillet, ou 30 juillet.
Et à quelle heure?
À 14h.
Oula!
Mais à 14h, vous savez comment ça se passe, Avignon?
Je sais que
il y a
ça...
des spectacles de 10h du matin jusqu'à 22h, toutes les 2 heures dans chaque salle.
Oui.
Donc, et 14h, c'est fantastique. Parce que. On peut se coucher tard,
oui.
Et on n'est pas obligé de se lever trop tôt.
Oui, c'est vrai. On
ça,
peut
c'est
voir...
le bel horaire.
On peut voir ça comme ça, oui. Moi, je pensais à la chaleur, mais
on
bon, ça, c'est...
tranquille, et ensuite, on a toute l'après-midi pour aller voir les autres.
Oui, bien sûr, oui.
Pour aller dîner.
Pour échanger,
et le lendemain,
pour se
on se repose.
D'accord.
J'adore 14h.
Ah ben alors, c'est parfait, si cela vous convient. D'accord. Donc... là, c'est la contrebasse de Suskind, qui est un auteur allemand qui vit toujours, qui est un monsieur qui a 76 ans. Il me semble qu'il est metteur en scène aussi. Ce texte a été beaucoup joué en Allemagne. Ça a été joué durant des années pratiquement dans le même théâtre. Bon, en France, il y avait des comédiens aussi qui l'avaient repris, puisque c'est un solo. Et donc, vous, en général, vous faites des spectacles que vous écrivez ou que vous co-écrivez, notamment avec François Rollin. D'ailleurs, je peux vous demander, il va bien ou je fais une gaffe?
Oh, il n'y a pas de gaffe du tout, il va bien, j'espère pour lui. En tout cas, je ne l'ai pas vu depuis quelques temps, mais j'ai eu de ses nouvelles par d'autres. Je pense que tout va bien pour lui.
Vous l'avez vu dans le film?
Je lui souhaite.
Vous l'avez vu dans le film 2020?
Pas encore.
Parce que c'est un des, comment dirais-je, ben des comédiens qui jouent. Puisque vous savez, 2020, c'est une troupe. Enfin, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du théâtre, qui jouent dans ce film, et c'était après les confinements. Et donc, ils ont fait des... Ça se passe à Paris, et c'est un seul, comment on appelle, un seul plan, enfin, c'est...
Il s'arrête. Séquence.
Voilà, oui. Et donc, sur toute la ville, avec différentes personnes. Et donc, il y a François Rollin avec qui est censé faire jouer quelqu'un. Enfin, donc, il se dispute un petit peu. Enfin, voilà.
Ça a l'air passionnant.
Non, mais on reconnaît le François. Non, mais je veux dire, le film est très intéressant.
Okay.
Et ils sont, parce qu'ils l'ont présenté à l'ABC en, comment dirais-je, comme ça, en avant-première. Ils faisaient le tour de certaines villes. Et donc, il y avait toute une grande partie des actrices et acteurs qui étaient là. Et donc, ils sont venus le présenter, qui en ont parlé. Après, il y a eu une rencontre. Et c'était, voir Paris, enfin, De cette façon, c'est très joli, quoi, parce qu'il y a différents quartiers. Donc, on voit des gens à vélo, on en voit certains qui sont sur, dans des terrasses de café, puisque c'était après les confinements, donc où tout le monde avait envie de vivre. Et puis, les échanges aussi, enfin, les textes qui sont dits aussi ont un rapport avec. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà. Revenons à nous. Donc, à vous, plutôt, plus exactement. Donc, ce que je voulais dire, c'était que c'est un texte de quelqu'un plus. Est-ce la première fois qu'au théâtre, vous vous appropriez le texte de quelqu'un ?
Ça, alors, j'ai joué des pièces de Molière, j'ai joué des pièces d'auteurs américains.
Parce que moi, je connais beaucoup vos textes.
C'est la première fois. En 2019, quand je jouais Colère, le texte n'était pas de moi. Le texte était de François Rollin, mm-hmm. 100%.
D'accord, oui, d'accord. Oui.
Mais il avait un air de famille avec ce, ce que j'écris.
Vous
avec
aviez
ce que
un compagnonnage et puis il vous connaît bien. Donc,
alors que là, c'est un...
C'est une autre chose.
C'est une première. C'est une première de s'approprier effectivement ce texte qui a été écrit pour d'autres.
En 1986.
Alors je ne peux pas vous dire exactement.
Je l'ai lu hier soir.
Et je me suis souvent posé la question, depuis je pense, s'il avait été écrit pour Villeray ou pas. Mais en tout cas, Jacques Villeray l'a joué il y a 30 ans.
Oui.
Avait fait un énorme succès avec ce texte. Et Gilles Galliot, donc le metteur en scène avec qui je travaille, l'a vu il y a 30 ans et... Et quand on a commencé à travailler ensemble sur Colère, il m'a dit « ce serait un texte pour toi
voilà. ».
Et donc, j'ai dit « banco
okay. ».
Et un an plus tard, on est dessus. Et
vous aviez lu avant ce texte de ce skin, avant d'y travailler ?
Non, je ne crois pas.
D'accord.
J'avais lu « Le parfum
».
Il y a longtemps. Et donc, la contrebasse. Et récemment,
vous avez lu « Le pigeon » ?
Le pigeon la semaine dernière.
Oui. Oui, parce qu'il y a toujours ce côté récurrent chez ces personnages comme ça qui sont à la limite, quoi, sur un fil très ténu.
Exactement, exactement. Voilà. Et je suis comment, vous savez, l'enseignement de Michel Bouquet,
qui nous a quitté il n'y a pas
très
longtemps,
de théâtre conservatoire, et qui disait à ses élèves que quand on aborde un auteur, quand on aborde le travail d'une pièce de théâtre, il est bon de lire tout ce que l'auteur a écrit,
fait, oui.
De s'imprégner de... Donc j'ai suivi ça, donc j'ai lu presque
tout
Suskind. Il m'en manque deux.
Ouais, ouais. Et vous l'avez rencontré?
Non, je crois qu'il est un peu...
Il a 76 ans, il vit toujours
ermite,
en Allemagne.
Non, il vit un petit peu retiré. Je ne sais pas si on peut le rencontrer comme ça facilement.
Non, mais je vous demande, parce que bon, c'est vrai que cette pièce a beaucoup de succès, et voilà, donc c'est pour ça que je vous le demandais.
Non, je crois qu'il vit en Suisse.
Ah, maintenant, il vit en Suisse, d'accord.
C'est ça, non? Ou en Suisse allemande?
Non, d'accord. Et pour les autorisations, ça se passe comment? Ça a été facile ou pas?
Les autorisations...
Pour pouvoir jouer.
Les droits, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé.
D'accord.
Et je crois que ça n'a pas été très, très compliqué.
Parce que c'est variable, ça aussi,
C'est pas Suskind qui donne les droits, c'est son traducteur.
D'accord.
Qui nous a donné les droits d'interpréter le texte en France. Voilà, je crois.
Vous pouvez dire le nom du traducteur? Parce que moi, j'ai oublié mon papier au bureau.
Laure Tolary, son prénom...
Bernard.
Philippe, je crois Bernard. Bernard.
Ouais.
Bernard Laure Tolary, qui lui est suisse.
D'accord.
Suisse-allemand, donc bilingue.
Oui.
Allemand.
Oui, mais peut-être il est même trilingue,
Oui. Italien.
Souvent il parle italien, français, allemand. Vous voulez en dire un extrait de la contrebasse pour donner envie aux gens d'aller vous découvrir à la cave poésie? Je précise, c'est à la cave, dans le sens strict du terme. Il reste encore 3 soirs.
Un petit extrait?
Ben oui, ça serait bien pour les gens qui ne connaissent pas, puis c'est toujours intéressant.
Alors, voilà. D'ailleurs, on ne verra jamais un enfant jouer de la contrebasse. Moi, j'ai commencé à 19 ans et je ne me suis pas retrouvé contrebassiste parce que je l'avais décidé. Plutôt comme la jeune fille qui se retrouve enceinte, par hasard. Après être passé par la flûte à bec, le violon, le trombone, le dixieland. Mais c'est loin tout ça et à présent, je suis contre le jazz. Du reste, je ne connais pas un seul collègue qui soit devenu contrebassiste parce qu'il l'aurait décidé. Et on comprend bien ça. L'instrument n'est pas spécialement maniable. Une contrebasse, c'est plutôt un embarras. qu'un instrument. Vous pouvez guère la porter, faut la traîner. Si vous la faites tomber, elle est cassée. Dans une voiture, elle ne tient qu'à condition d'enlever le siège avant passager. Et à ce moment-là, la voiture est pratiquement pleine. Dans un appartement, elle se trouve sans cesse dans votre chemin. Elle est plantée là, avec un air si bête, vous voyez. Mais pas comme un piano. Un piano, c'est un meuble. Vous pouvez le fermer, le laisser là où il est. Elle, non, elle est toujours plantée là, comme dans le temps. Il y avait un oncle qui était toujours malade et qui n'arrêtait pas de se plaindre. Qu'on s'occupait pas du tango, on s'occupait pas de moi. Eh ben, la contrebasse, elle est comme ça. Quand vous avez des invités, elle se met tout de suite à faire l'intéressante. On parle plus que d'elle. Quand vous êtes seul avec une femme, elle est là qui surveille tout. Si les choses se précisent, elle est là qui regarde. Elle rend l'acte sexuel ridicule. Vous avez toujours l'impression qu'elle rigole. Cette impression se communique à votre partenaire et alors là... Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'entre l'amour physique et le ridicule, il n'y a qu'un pas et que ces deux choses-là ne vont pas du tout ensemble. C'est proprement inconvenant. Excusez-moi un instant.
Merci beaucoup.
Voilà, la contrebasse, telle que la vit ce contrebassiste au quotidien.
Parce que bon, il y a l'histoire, certes, c'est un contrebassiste qui est fonctionnaire, donc il joue dans un grand orchestre, un orchestre symphonique.
L'orchestre national.
Voilà, l'orchestre national, donc il y a des cachets régulièrement, qui jouent régulièrement. Donc il y a toute cette description de la contrebasse. Au départ, il la magnifie, en disant que vraiment, s'il n'y a pas les contrebasses, ben, rien ne, dans l'orchestre, tout foire. Hein,
c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, il essaye de faire comprendre à tout le monde que son rôle est super important.
Oui, oui. Mmh.
Et on s'aperçoit petit à petit que son rôle, effectivement, est super important, mais personne n'a l'air de le savoir.
Oui, oui, oui.
Et lui, ben, il le revendique, il le met en avant, jusqu'au moment où il va aller
tellement loin qu'il va
s'apercevoir que... Mmh. Que c'est pas si évident que ça, et que petit à petit il va sombrer. Jusqu'au soir où il s'en va faire son travail à l'opéra. Et là, il prépare un coup fumeux.
D'accord. Oui, parce qu'il y a donc cette histoire de la contrebasse. Alors, vous, comment dire, il y a maintes précisions quant à la musicologie, aussi à comment est fabriquée la contrebasse, comment on la joue. Enfin, bon, ça, ce sont des choses. Après, donc, il y a tout ce côté encombrant, entre guillemets. Mais c'est quelque part, enfin, c'est un prétexte, enfin, je suppose, de la part de Suskind, puisque ça narre aussi la solitude et la tristesse de ce monsieur.
Exactement. Est-ce que c'est lié à son instrument?
Ou est-ce que Suskind a pris cette façon pour parler de la solitude de quelqu'un?
Est-ce que tous les contrebassistes sont comme ce contrebassiste? C'est ce qu'il a l'air de dire. Il a l'air de dire qu'il y a une espèce de destin commun de tous les contrebassistes qui sont maltraités, méprisés. Moi, ce que je vois, c'est que, quelque part, Suskind, je ne sais pas comment, mais il connaît parfaitement ce monde de la musique.
Ah, oui.
Il connaît parfaitement la psychologie de ces musiciens. C'est superbement décrit.
Que c'est un mélomane et qu'il a dû fréquenter beaucoup les concerts. Enfin,
Je me suis posé la question.
Il s'est bien documenté, sinon, parce que c'est vrai que...
Comment il a eu cette idée, où il est allé chercher tout ça, parce que c'est sublime. Mm-hmm. C'est sublime.
Et c'est une façon élégante, quelque part aussi, me semble-t-il, pour parler, de la solitude des personnes dans certains cas. Et puis aussi, il y a aussi un côté plus, comment dirais-je, plus sociétal, plus revendicatif. Il dit que, bon, certes, tout n'est pas rigolo, mais en fait, que par rapport aux gens qui sont dehors en train de briser des cailloux, je ne sais quoi, que franchement, c'est pas glorieux non plus. Donc il y a aussi cet aspect-là. Des conditions de travail et que beaucoup de gens se retrouvent à faire avoir des occupations qui ne sont pas forcément folichonnes.
C'est-à-dire beaucoup de gens comme lui se retrouvent dans des positions dans des positions sociales qu'ils n'ont pas choisies, mais dans lesquelles ils ont été emportés. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi lui se retrouve contrebassiste alors qu'il voulait peut-être être chef d'orchestre ? Pourquoi est-ce que, comment il en est arrivé là ? Il pousse le bouchon très très loin et il compare donc l'orchestre, le fonctionnement de l'orchestre
à la société,
au fonctionnement de la société.
Et c'est là que je dis qu'il y a cet aspect comme ça très
ou ceux qui sont ou ceux qui sont ou ceux qui ont le plus sale boulot sont, comme il le dit, en plus méprisés par le reste
par le restant de la population. Oui,
donc c'est une espèce de cri comme ça qu'il pousse.
Il y a une lecture sociologique d'une certaine manière et politique
complètement qui s'élargit pas non plus, ça reste quand même sa vision.
Oui, c'est comme ça, peut-être en suspens, mais c'est quand même...
La vision de ce contrebassiste, et qu'il élargit à sa vision du monde. Et en ça, il nous donne à réfléchir.
Oui, de comment nous regardons les autres en fonction de leur appartenance au socio-culturel, de leur...
C'est très drôle, c'est amusant, je vais rebondir sur une des spectatrices qui était là hier soir, et qui nous a dit à la fin qu'elle avait rêvé à un moment de sa vie d'être musicienne et qu'elle n'avait pas eu
le courage,
la force,
l'audace
ou la chance
de pouvoir l'être,
de le devenir, et qu'elle avait toujours peut-être imaginé que sa vie aurait été meilleure si elle l'avait fait. Et en voyant cette histoire de ce contrebassiste qui, lui, l'a fait, mais qui est
finalement
malheureux,
ne s'y retrouve
très
pas.
Malheureux, oui, peut-être aussi malheureux qu'elle qui ne l'a pas fait, ça lui a fait beaucoup de bien. Et elle s'est dit, oui, je peux faire de la musique, je peux avoir de la joie de la musique sans que ce soit mon métier, ma profession. Et que peut-être, en fait, suivre son instinct, c'est aussi important. Lui, dans la contrebasse, le contrebassiste, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, et j'imagine que ce n'est pas par hasard.
Oui, ça veut dire quelque chose, oui, effectivement.
Ce contrebassiste n'a peut-être pas eu le destin qu'il aurait eu envie d'avoir.
Bien sûr, oui. Ben, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il s'est retrouvé par hasard. Et que, voilà, et puis là, bon, c'est stable, il a des vacances, il a un salaire, voilà, il a... Il est même, comment dire, il a même un costume qu'on lui offre. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'avantages même. Mais après, il y a aussi cet aspect beaucoup plus intime, qu'il est amoureux d'une soprane et que, bon, elle ne le sait pas. Et là, il y a, en plus, je trouve que vous l'interprétez divinement bien, une souffrance. Enfin, c'est, ah oui, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça.
C'est mon vécu.
Non, je... Parce que là, quand vous vous mettez sur cette chaise avec ce coussin, enfin, je ne veux pas tout dévoiler, il faut que les gens aillent voir. Mais c'est vrai.
Gâché comme ça.
Vous pouvez dévoiler. L'important, c'est que je le refasse ce soir.
En plus aussi, des fois, quand vous mettez les mains aussi sur le visage, et qu'il y a, selon en écoutant certains morceaux de musique, ça rappelle au personnage certaines choses, et vous le magnifiez. Enfin, c'est. C'est assez impressionnant.
De toute façon, c'est un texte très sexuel, très érotique, très sensuel. Il mélange l'amour de l'instrument avec l'amour de cette femme. Il mélange
les formes,
le mot instrument avec son propre instrument à lui, la forme de cette contrebasse, le rappel à la féminité. La sensualité, et à un moment il le fait de prendre
dans les bras,
il touche cette contrebasse
de façon très sensuelle,
comme fait l'amour. J'essaye, je sais pas encore, je suis en rodage.
Mais c'était pas méchant quand j'ai dit.
Non, mais je comprends pas, j'ai pris très bien, non, j'ai pris ça comme un compliment. Je veux dire, j'essaye de faire ça avec le plus de sensualité. Les moments chauds, j'essaye de les rendre chauds. Voilà. Et les moments violents, je fais de mon mieux, comme dirait le contrebassiste, vers la fin de l'histoire.
Il faut dire que dans votre jeu, en règle générale, vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui avait beaucoup de mimiques, enfin des fois c'est un masque, bref, qui parlait beaucoup aussi avec les mains. Et donc, dans ce, pour la contrebasse, vous jouez sur ce registre aussi. Je veux dire que peut-être dans une autre mise en scène avec un autre comédien, il n'y aurait pas ce, comment dire, cette, tous ces gestes comme ça, qui sont des fois assez amples, enfin...
comment dire ?
Parce que quand vous mettez à genoux...
Moi, faites... ce qui m'importe dans mon travail, c'est de coller au plus près... de la vérité du texte,
de ce que vous
et de ma vérité à moi.
Voilà, c'est-à-dire, comment vous le ressentez, comment vous le lisez.
C'est-à-dire, je veux pas truquer, je veux pas truquer les émotions, je veux pas truquer le, je veux pas faire semblant. On est en même temps, je fais semblant, mais,
oui, mais c'est...
je veux faire semblant avec le en m'approchant au plus près de ce mélange de ces deux vérités, celle des mots et celle de et la mienne. Et quand je suis dans cette vérité, quand j'y arrive, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'exagération. Il y a des gestes.
Oui,
non,
oui.
Mais je veux dire, il y a des gestes, il doit y avoir des gestes. On les a répétés, bien sûr, mais je ne les calcule pas.
Oui, oui.
Je les laisse venir s'ils viennent. Alors, effectivement, il y a aussi du...
Mais ça vous appartient, ça, quand même, de...
Mais au tout départ, il y a 30 ans, j'ai commencé par le mime.
D'accord.
Ma première formation, c'était une formation de mime.
D'accord.
Pendant 2 ans, après la formation de comédien.
Vous l'avez faite avec Michel Bouquet, puisque vous avez parlé de lui ou pas ?
Non, mais je suis pas sûr que Michel Bouquet était professeur de mime, si ?
Non, pour pour après le théâtre.
Non. Michel Bouquet était prof au conservatoire. Et, j'ai loupé l'entrée au conservatoire.
Vous avez fait quoi, le cours Flora ou une autre ?
J'ai pas loupé d'ailleurs, j'étais trop âgé. J'ai été d'abord autodidacte pendant pas mal d'années, à jouer dans les cabarets comme comique, comme humoriste. Après, j'ai rencontré un professeur avec lequel j'ai travaillé pendant quelques années, tout en étant déjà professionnel, mais j'ai continué à apprendre. Strasberg,
d'accord.
John Strasberg, qui venait donner des cours à Paris. Et puis, voilà, moi j'ai besoin, sur scène, j'ai besoin que ce soit physique, surtout.
Oui, mais c'est naturel, quoi, chez vous.
Je me force pas beaucoup,
force pas beaucoup. Et au niveau aussi de...
Et naturel, je sais pas, parce que dans la vie, je suis pas comme ça, mais sur scène...
Les expressions du visage aussi, il y a des...
Sur scène, j'ai besoin que ce soit vivant, expressif, que l'espace soit occupé.
Vous l'occupez, oui.
Oui, merci.
Oui, quand vous avez dit que vous aviez fait une formation de mime, l'aviez-vous faite avec qui, la formation du mime ?
Alors, personne, à part ceux qui ont été ses élèves, il s'appelait Brian Stravichny.
À Paris ou...
À Paris.
D'accord.
C'est un Canadien d'origine qui avait été formé à l'école Decroux.
D'accord.
Decroux, et qui donnait des cours à la Villette.
D'accord.
C'était il y a très longtemps.
Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je vous demande.
Je ne sais pas pourquoi. C'est par hasard. Je me suis retrouvé dans ces cours de mime. Et ça m'a passionné pendant quelques années.
C'est super intéressant.
Je n'avais pas du tout envie de devenir mime.
Ouais, non, mais c'est super intéressant.
Mais je savais que ça allait me servir plus
tard. Mais il y a une rigueur. Il y a une certaine rigueur. Le mime, c'est...
Une conscience du mouvement.
Ah, oui, c'est une bonne école. Hein.
Magnifique.
D'accord. Il y a deux petites choses qui me tracassent, enfin qui me tracassent entre guillemets.
Vous n'avez pas dormi cette nuit ?
Si, parce que je me suis couchée tard, donc après j'étais fatiguée. Pas à cause de vous, pas à cause du spectacle, donc ne vous inquiétez pas. Parce que moi j'ai lu la contrebasse il y a très très longtemps. Je l'avais après vu jouer aussi à Toulouse dans un tout petit théâtre, dans une mise en scène complètement différente, moi qui ne m'avait pas du tout plu. Je le voyais, enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Puisque ça a été écrit en 86, ce livre, après le... Parce que là, quand vous parlez... Enfin, quand le personnage, pardon, parle du prix de la contrebasse ou des cordes, quand il faut les changer, bon, maintenant, c'est 1 euro. À l'époque, c'était en francs ou en marque, je ne sais pas comment...
C'est écrit en marque.
En marque, oui, dans la traduction, voilà, c'est ça. Bon, ça encore, ce n'est pas le plus. Mais il y a un truc... Est-ce que, quand vous parlez notamment de certains musiciens, de certains compositeurs... Enfin, quand le personnage, excusez-moi, parle de certains compositeurs... de leur travers, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs allemands, et que souvent le mot Bosch est employé. Est-ce que c'est dans la traduction de monsieur...
De l'Ortolaré, oui, probablement, et aussi probablement dans la version originale en allemand.
Ah oui ?
Parce que je crois, je ne suis pas certain, mais il me semble bien que Bosch, c'est une... C'est un terme que les Allemands eux-mêmes utilisent.
Ah, d'accord, ça,
en méprisant
sais.
Les Boches qui viennent, je crois, d'une, c'est comme si on disait des ploucs.
D'accord.
Ou des, je sais pas, des... J'ai pas de mots, mais...
Ah oui,
c'est déjà, en Allemagne, je crois, me souvenir...
C'est quelque chose de sociétal, donc de... Oui, d'accord, oui, ça, je ne savais pas.
Je pense pas que ce soit inventé par les Français.
D'accord. Non, non, parce que ça m'a... L'auteur étant allemand, ça m'a... Parce que c'est vrai, je vous dis, il y a très longtemps que j'ai lu, donc je me souvenais pas de ça. Et hier soir, ça m'a frappé. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment dans le livre ou est-ce que... D'accord, d'accord.
Non. Lui, en fait, à ce moment-là, il décrit Siegfried.
Oui, je sais bien.
Siegfried. Et il parle de la grossièreté de Siegfried. Mmh. Il parle de sa graisse. Mmh. Et donc, sa grossièreté de Boche, C'est Suskind qui l'a écrit.
Oui, oui, d'accord.
Suskind allemand qui...
D'accord.
Et je ne pense pas qu'il ait utilisé un autre mot.
Oui, oui, non,
et
non.
Et d'ailleurs,
mais...
c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'avec Gilles Galliot, on voulait se procurer, on n'a pas encore fait la version allemande. Voulait vérifier
Vous parlez allemand tous les deux ?
Non, mais on se serait débrouillés.
Oui, ça, oui, on peut toujours trouver quelqu'un. Débrouillé. Oui, et puis s'il y avait écrit ça, peut-être avec des accents ou écrit différemment, parce que bon, la langue allemande étant quand même assez compliquée.
C'est des petites choses qu'on voulait aller vérifier, et puis bon, le temps passe très vite.
Vous n'avez pas eu le temps de le faire, d'accord.
D'aller dans une librairie allemande, de trouver le bouquin allemand. Mais on va le faire.
Allez au Goethe, peut-être, ici. Oui. Institut. Allez voir.
Il fait chaud. On fera ça en rentrant à la maison.
D'accord.
Là, on est concentré sur le...
Oui, il faut que vous prépariez pour...
Sur le jeu, sur le travail, sur les répétitions. Uh-huh. On passe nos journées dans la cave.
C'est vrai. Je témoigne.
D'accord. À force, il doit faire chaud, même à la cave.
Non, à la cave, il fait super frais.
C'est parfait.
Oui, mais même quand vous y restez longtemps en vous agitant, parce que vous êtes quand même sur scène, oui.
Oui, oui, non, mais.
Il y a une certaine agitation au niveau de vos mouvements, si je puis dire. Et puis après, il y a le texte qu'il faut bien.
Oui, quand on répète, on n'est pas à 100%
sur
le physique.
Oui, oui, oui.
On en garde un peu sous le pied.
D'accord. Oui. Et le choix d'avoir mis des vinyles, tout ça, de ces compositeurs, et puis aussi d'avoir l'électrophone pour faire entendre de temps en temps la musique, c'est un choix du metteur en scène ou vous l'avez voulu tous les deux de...
C'est dans le texte, et c'est un mélange des deux.
D'accord.
Le texte est écrit avec pratiquement les indications de mise en scène.
Oui.
Il met un disque,
didascalies, d'accord.
Il boit, mais après on est libre de faire notre propre.
C'est pour ça que je
scène.
Vous demande.
Mais oui, il s'est écrit dans le livre. Il met tel disque, il met tel. Il parle de Wagner, il parle de Schubert.
Il en écorche quelques-uns au passage, oui, on va dire. Ça
oui, surtout Wagner. petite haine. Alors, je peux vous dire un petit passage à ce moment-là.
Oui.
Il dit exactement, il fait donc écouter le prélude de la Valkyrie, et il dit, vous entendez ça, c'est monté là, en réalité, on joue 50% des notes qui sont écrites. Est-ce que Wagner le savait? On ne sait pas, probablement pas, parce qu'en fait, il méprisait l'orchestre. Voilà, petit extrait. Et il en veut à Wagner.
Ah oui, c'est...
Beaucoup.
Oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, puisque je sais, vous devez partir à 45, je ne veux pas vous chasser, mais je ne veux pas que vous soyez en retard, parce que j'imagine que vous allez répéter à la cave.
Merci à vous, exactement.
Comment, par quel biais vous voulez approprier ce texte? Dans toutes ces nuances, en toutes ces... C'est parce qu'il y a des moments d'admiration, et puis des moments de rejet, des moments de colère, et puis après, il y a quand le fil devient très ténu et que le personnage perd un peu les pédales, quoi, qu'il est tellement, omnibulé par cette histoire d'amour qu'il voudrait, et puis aussi par ce rôle de contrebassiste. Donc tout se précipite, se fracasse un peu dans son cerveau. Comment pour digérer tout ça, avez-vous procédé? Certes, vous allez me dire, vous êtes comédien, mais...
Non, c'est ça, c'est une vraie question que vous me posez et que je me suis posée avec le metteur en scène. Comment on a fait tranquillement.
D'accord.
Tranquillement, étape
par étape. En prenant le temps.
Étape par étape, pas forcer les choses.
Il y a eu des lectures à la table
Oui, d'accord. Oui, il y a eu 15 jours à décortiquer le texte. Après, moi, de mon côté, bah, je cherche mmh. les choses, oui, les choses qui m'émeuvent, les mmh. choses qui me touchent, mmh. les choses dont je peux me
comment servir. Après vous pourrez les restituer au plus près,
comment
au plus
je peux les remettre, mmh. Les choses qui me mettent en colère, les choses qui me m'agressent, mmh. et comment je réagis, et puis je me glisse petit à petit comme ça dans les souliers de ce personnage.
Ce personnage.
Qui a plusieurs souliers, d'ailleurs.
Et oui.
Puisque le soir, pour aller à l'opéra...
Il a plusieurs costumes.
Il enfile son habit de soirée.
Son habit de scène.
Voilà. Mm-hmm. Donc, on a fait ça tranquillement, sans chercher à réussir tout de suite.
Oui,
en fait.
Oui, non, mais il faut tâtonner, oui, bien sûr.
C'est important.
Et puis, il y a des choses qui passent... Qui passe comme ça, mais pas sur le plateau, quoi. Donc, de toute
exactement,
façon.
Exactement. Et moi, comme spectateur, si je vois un comédien qui truque, qui force, je rentre pas dedans.
Vous allez apercevoir, oui, oui.
Je vais rester extérieur. Mmh. Donc, je préfère un comédien qui en fait moins, mmh. mais qui est juste. Voilà, et c'est ce que j'essaye de faire sur un plateau.
Mmh. Et la dite contrebasse, donc, qui est présente, vous l'avez louée, ça se passe comment dans ces cas-là?
Alors là, à Toulouse, on nous l'a prêté.
D'accord, c'est bien.
Un contrebassiste qui sera là ce soir, Cyril.
Généreux, vous a prêté,
nous a prêté sa contrebasse.
D'accord.
Je suis très très respectueux de sa contrebasse. J'en ai une à la maison depuis un an.
Ah, vous avez fait l'acquisition pour...
d'une contrebasse.
Pour jouer.
Voilà, via Le Bon Coin.
D'accord.
On a parfait les bons plans.
j'ai trouvé une contrebasse assez jolie, qui va bien, plus qu'un son... Correct.
Correct, ouais.
Et j'ai commencé à apprendre la contrebasse avec une professeure
de contrebasse
une heure par semaine. Il fallait que je sache en jouer au moins un peu.
Oui, et puis pour dire comment, en plus c'est très précis, les notes, quand vous entendez cette note, on peut aller, bon, c'est quand même très précis, c'est un vocabulaire de musicologue, quoi.
C'est très précis, en plus c'est très précis aussi de jouer ces notes.
Et oui, j'imagine, oui.
C'est une note tout en bas, dans les aigus, mmh. aigu, mmh. contre-contrute. Mmh. C'est très... Donc, je vais vous avouer un truc. Hier soir, j'étais juste sur la note. Il n'aurait pas fallu que ce soit un tout petit peu plus haut ou un tout petit
d'accord.
peu plus bas. Mais ça va, ça le
oui,
fait.
Non,
ça le fait.
Mmh. D'accord.
Voilà, et quoi, ça fait un an que je pars de très très loin au niveau musique.
Vous aviez appris un instrument avant ou pas?
Rien du tout.
D'accord.
Je ne connaissais pas, j'ai jamais eu le courage. Mm-hmm. J'ai toujours voulu apprendre la guitare, apprendre
et oui, comme
le
beaucoup
saxophone,
de gens, oui.
Et j'ai jamais eu le courage, la patience, la témérité.
Oui, c'est une école de rigueur aussi, c'est comme le mime, mais c'est même peut-être pire, peut-être, parce que...
Oui, sinon c'est du long terme, ouais. C'est du très long
parce
terme.
En plus, les instruments à cordes sont très fragiles en fonction aussi de la météo, enfin de...
Je vais vous dire ce que je pense. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui vont faire de la musique parce qu'ils ont envie d'aller faire de la musique. La plupart de... très, très faibles.
Il y en a certains qui...
J'ai deux enfants, il y en a un, allez, on l'a inscrit à la guitare et on l'a un peu forcé... le deuxième, il a voulu, lui, de lui-même, commencer la batterie.
Mm-hmm.
Et on ne l'a pas forcé, mais...
Oui, soit les enfants, la batterie, ça leur plaît. Parce
mais
que
le résultat était le même, ils ont arrêté tous les deux.
Ah bon, d'accord. Ils n'ont pas persévéré.
Ouais. Non, ça les ennuyait terriblement d'aller...
Régulièrement.
D'aller s'asseoir avec un prof et de...
Après, il y a tous les sorts du solfège, il y a tout ça.
Et donc,
aussi.
Les seuls enfants qui deviennent musiciens, c'est parce que les parents les contraignent. Très, très peu qui ont ça par goût, très, très peu.
Ouais. Et après, il y a ceux dont les parents sont musiciens, donc déjà,
exactement.
C'est autre chose.
Exactement.
Et est-ce que, puisque vous parlez de vos enfants, est-ce qu'ils font du théâtre ou pas?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Il y en a qui fait du design.
Ouais.
Et l'autre qui est en troisième.
D'accord. Ah oui, donc il a encore.
Et qui va passer demain le brevet blanc,
ben oui.
L'oral du brevet.
D'accord, ok.
Avec un texte de Murakami.
Oh.
Voilà, c'est lui qui l'a choisi.
Oui, oui, non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, il a des... voilà. Il est déjà curieux.
Bon, il est un peu obligé, là.
Non, mais bon.
Non, mais il est curieux.
Non,
mais j'avoue que... C'est compliqué de faire lire ses enfants en ce moment.
C'est-à-dire?
Bah, très compliqué de faire lire un livre à un enfant. C'est très, très compliqué.
À cause de toutes les écrans,
cause
de tout
oui,
ça,
c'est ça. À cause de l'ordinateur, à cause du téléphone, à cause des tablettes. Et j'étais très content qu'il lise ce livre. Ça s'appelle, je crois, Portrait, Autoportrait en coureur de fond. Et je me suis rendu compte, au milieu du parcours, en fait, qu'il avait réussi à télécharger le livre en audio.
Ah oui.
Oh, le village.
En fait, il n'a pas lu, il l'a,
oui,
il l'a écouté.
D'accord.
Et je lui dis, écoute, si tu l'écoutes, mais t'es pas imprégné de la même manière que quand tu le lis, parce que quand tu le lis, toi, tu vas te créer tes propres pensées.
Ouais.
Alors que si c'est quelqu'un, un comédien qui te le lit, il lui-même
a sa vision, sa compréhension. Voilà. Ouais, ça arrive. Et puis tout à l'heure, vous qui parliez de sensualité dans le texte quelqu'un et de Suskind, un livre, ça reste quand même quelque chose de genre le touche, il y a l'odeur de l'encre, il y a le frôlement des pages, enfin il y a plein de choses, il y a puis selon la
exactement, mais
selon comment c'est imprimé, ce n'est pas la même chose.
On l'a, nous, et les enfants ont la même chose, mais en faisant glisser leurs doigts sur un écran tactile, il y a la même. Il y a cette même, c'est assez magique aussi, hein, c'est tout,
après ça reste tout. Une expérience de lecture aussi,
la lecture audio, enfin le
par exemple,
oui, probablement, j'espère,
oui.
tant mieux, enfin j'espère vraiment, mais je crois que j'y arrive pas, moi, je parce que voilà, j'ai besoin de
du support
exactement de ça, de ce que dont vous parliez, le papier,
oui, l'encre,
les pages,
la couleur, dans son imprimé, la couleur de la page, bref, mais ça c'est un autre débat. Bon, c'est pas que je veuille vous chasser, mais je voudrais pas vous mettre en retard pour
c'est parfait, pour moi c'est parfait, j'ai plus rien à dire en plus.
si vous êtes bavard, parce que moi je vous ai entendu souvent, puisque vous avez quand même une longue carrière radiophonique. Donc je vous connais entre parenthèses. Donc je sais que vous êtes bavard, mais bon, je veux pas
j'ai
vous
appris, non, j'ai appris.
Donc c'est ce soir, demain soir et samedi soir 21h à la CAF Poésie. Et c'est toujours mieux de réserver parce que la jauge n'est pas très grande.
Exactement.
Et avec Clémentine, nous allons continuer à parler de ce qui passe à la CAF Poésie la semaine prochaine.
Ouais.
Au revoir Jean-Jacques Vallier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et à bientôt
à plus tard.
À la prochaine création.
Voilà, d'accord. Vous le ferez coucou. Au revoir. Donc Clémentine, cette semaine dans c'est Jean-Jacques Vallier, il y a eu déjà, et il y a eu aussi à 19h des présentations des écoles.
Alors on a eu hier, tout à fait, on a eu hier l'IFMI, c'est l'Institut de formation des musiciens intervenants, qui font leur sortie de leur fin d'année, leur création de fin d'année en fait. Et du coup il y avait plusieurs propositions hier soir, mais malheureusement j'y étais pas, je peux pas trop en dire.
Il y avait aussi les étudiants de l'ISDAT,
non? L'ISDAT, non, ou... c'était pas maintenant.
C'était plus tôt. Plus tôt, oui, je suis.
Mais effectivement, ils passent dans l'année, ouais.
Parce que ça fait partie des rendez-vous qu'il y a à la CAF.
Voilà, qu'on appelle les commencements.
Voilà.
Pour lancer les jeunes artistes, ouais.
C'est important. Et donc, la semaine prochaine, il y a une semaine un peu charnière entre la programmation annuelle, si on peut dire.
Ouais.
Et après, la saison estivale, qui est toujours musicale.
C'est ça, c'est même deux semaines, parce que donc la semaine prochaine, ça va plutôt être une semaine en musique. Bon, il y a la fête de la musique au milieu, que... étrangement, nous ne fêtons pas, on n'a rien le 21, on le fête un peu en avance, on a quelque chose le 20 juin à 21h. On accueille une jeune artiste de l'ISDAT justement, qui s'appelle Marie Slimane et qui vient avec ses invités, donc des copains à elle, des collègues. Ils ont monté un petit groupe comme ça d'artistes et ils vont nous proposer de la musique. Et le reste de la semaine, on va avoir notamment le jeudi 23 juin, il va jouer deux fois, à 19h et à 21h30, Mathieu Bogart, qu'on a déjà accueilli l'année dernière.
C'est comme Jean-Jacques Vanier, vous l'accueillez régulièrement.
C'est ça, tout à fait, pour des rodages. Et du coup, il revient, donc il va faire des anciennes chansons, il va sûrement faire des nouvelles chansons aussi. Et ça va être très chouette, ça joue deux fois. Et ça, vaut mieux réserver.
J'imagine.
Parce que ça se remplit très vite.
Il joue dans la cave ou en haut?
Ce sera en haut, ce sera dans la salle du haut.
Dans la salle du haut.
Ouais. Donc
mais
il y a
j'imagine,
un petit peu plus
de place. Il est très connu, donc ça.
C'est ça. Ça se remplit vite. Et après, le lundi 27, donc là, on bascule sur la semaine d'après.
La seconde semaine, oui.
Voilà, on a les éditions du Potichat qui viennent nous rendre visite.
C'est mignon.
C'est mignon, ouais. Ils vont faire leur boom de fin d'année.
D'accord.
Donc il y aura plein de choses. Il y aura de la musique, il y aura des jeux. Plein de choses, des rencontres avec les artistes, avec les auteurs et autrices édités. Donc ça va être très chouette, ça va être la fête, ça commence à 17h et ça va durer jusqu'au bout de la nuit.
D'accord.
On verra bien jusqu'à quand ça dure. Mmh. Et ensuite on retrouve Gaspard Chauvelot, donc un artiste qu'on accueille depuis maintenant longtemps à la Cave Poésie, depuis peut-être 3 ans il me semble. Il vient pour sa tentative d'épuisement du mois de juin, qui est donc une revue de presse sous forme un peu de stand-up. Ça c'est un rendez-vous aussi très prisé. Ça coûte 6 euros et c'est le mardi 28 et le jeudi 30 juin à 19h30 et il reviendra le mardi 5 juillet pour faire le compte-rendu du conseil municipal.
D'accord.
En fait, ça c'est un projet qu'on lui a proposé. Il assiste au conseil municipal et il nous en fait un compte-rendu sous forme de stand-up.
D'accord.
Et ça nous permet un peu de voir ce qui se passe.
Ah oui.
Puisque en fait, c'est assez peu, mais on peut assister au conseil municipal.
N'importe qui peut y assister. Oui.
Voilà. Donc lui, il se fait toute la journée de conseil municipal et il nous fait un petit compte-rendu de 45 minutes à peu près. Et ça, c'est en prix libre. Et c'est le mardi 5 juillet.
D'accord.
Voilà. Et après, effectivement, on basculera sur la programmation de l'été.
D'accord, comme tous les ans.
Comme tous les ans. Qui est essentiellement musical. On va accueillir plein de gens. On va accueillir... je prends mon petit papier. On va notamment être au Parc des Merlettes pour 2 rendez-vous. Mmh. Donc au Parc des Merlettes, c'est le quartier Papus.
Mmh. Vous y avez déjà été ?
On y a déjà été, ouais. On est en partenariat avec Partage Faourette. Et là-bas, on va proposer le premier concert le 9 juillet. C'est Sidi Wacho. C'est un groupe de cumbia, hip-hop, musique des Balkans, etc. Donc très festif. Et il y aura un autre concert très festif comme ça au Parc des Merlettes le 30 juillet, dès 20h. C'est un groupe qui s'appelle les Namas Pamous et qui fait voilà, une sorte de ska balkanique, poétique, musique très festive. Et entre-temps, et ben, toutes les semaines,
il y a des groupes
différents. Il y aura des groupes, voilà.
Et vous pouvez préciser le travail qui sera fait à la Cinémathèque aussi, qui est juste à côté, qui est juste
et ben, en fait, avec la Cinémathèque, on a décidé de mettre en place un partenariat, puisque eux, ils font le cinéma en plein air tout l'été, et nous, tout l'été, on fait les concerts en plein air
de l'école fermée. Oui.
Voilà. Ça, c'est bien de le préciser. Tous les concerts se passent dans la cour.
Oui.
Sauf en cas de pluie, où à ce moment-là, on se
rapatrie à l'intérieur.
Voilà. Mais tout est en plein air. Et en fait, on propose aux gens de se faire une double soirée. C'est-à-dire de venir voir le concert à la Cave Poésie et ensuite d'aller à la Cinémathèque voir le film en plein air.
D'accord.
Et en fait, ils ont une réduction. Donc, par exemple, à la Cinémathèque, ils ont une réduction sur présentation de leur billet Cave Poésie. Et chez nous, ils ont une réduction sur leur billet Cinémathèque. Pas forcément pour le même jour, d'ailleurs. Ils peuvent aller à la Cinémathèque le mardi et à la Cave Poésie le jeudi. La réduction sera quand même applicable.
D'accord.
Et du coup, on monte une sorte de guinguette collective comme ça pour animer un peu ces deux cours en plein centre-ville, puisque voilà, on a des propositions qui se complètent bien, on trouvait, donc on a mis ça en place.
C'est bien.
Ouais, ça va être très chouette.
C'est la dernière initiative, voilà.
Ouais.
Enfin, bon, du moment, quoi, je veux dire.
Ouais,
je
c'est ça.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Mais merci pour tout. Dans la semaine prochaine, donc les 2 semaines à venir, comme ça, plusieurs propositions, mais, voilà, de fin d'année, si on peut dire.
Tout à fait.
Et donc, il vaut toujours mieux réserver.
Il vaut toujours mieux réserver. Après, ouais, il vaut toujours mieux réserver.
Oui, parce que des fois...
Pour être sûr d'avoir une place et pour nous rassurer, nous dire « Ah oui, c'est bon, il y a des gens qui ont réservé. »
Oui, sinon vous angoissez, c'est ça.
C'est ça, un petit peu.
Si les gens arrivent au dernier moment.
C'est ça. Ouais.
C'est ça. Mais là, j'ai, comme ça, en écoutant diverses personnes et puis en fréquentant le milieu du théâtre, depuis bon, la fameuse Covid, les gens réservent souvent au dernier moment. Quoi.
Oui, je...
C'est-à-dire la veille ou voire le jour même, c'est pas...
Ouais, c'est quelque chose qu'on a remarqué.
Et donc souvent,
aussi.
Les directeurs ou directrices se font des cheveux blancs, comme on dit.
C'est ça. On a remarqué ça, les gens ne se projettent plus, en fait, se projettent plus tellement. Alors déjà, de base, chez nous, le public réservait déjà un peu au dernier moment. Mmh. Et là, c'est encore pire. Et du coup, c'est vrai que des fois, ça nous inquiète un peu. Et finalement, le soir venu, il y a du monde qui arrive. Voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, dans les lieux culturels en général... les réservations et la fréquentation restent assez timides pour plein de raisons. Et voilà, c'est important de venir voir des spectacles, de venir voir les jeunes artistes,
de les encourager, de leur permettre de, voilà, de s'exprimer ça. Et de pouvoir présenter leur création au public, parce c'est que ça. S'il n'y a pas de public,
ça tourne en rond. Hein. La rencontre ne se fait pas, quoi.
Je vous remercie beaucoup.
Ben merci.
À bientôt.
À très vite, ouais.
Je rappelle que demain, je ferai aussi le magazine, parce que là, c'était exceptionnel pour pouvoir caser tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc, demain, nous parlerons photos. Ensuite, il y aura l'association Del Arte qui, en relation avec le centre culturel Henri Desbal, propose un spectacle avec, disons, du hip-hop, mais aussi en y incluant Mozart, dont tout un, comment dire, une jolie initiative. Ensuite, il y aura un festival de jazz qui s'appelle Eclari Jazz. Et nous finirons avec un sculpteur, voilà, pour demain. Merci Clélia. Bel après-midi à tout le monde. À demain, pour ce qui me concerne. Au revoir.
C'est pas les cigognes dehors qui crie, c'est pas la vieille chaudière qui se remplit, c'est pas le gamin du dessus qui court sur le parquet. Y a du bruit.